Bonjour frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs. Frères et sœurs, quelle était une des plus grandes forces de Jésus durant son ministère? Quelle est cette force qui l'a gardé de la tentation de céder à Satan pour satisfaire à ses propres besoins? De céder au fait de prouver qu'il était capable de faire des miracles pour résister à la tentation de posséder tous les royaumes du monde maintenant, alors que Satan lui offrait. Quelle était cette force qui l'a rendu invincible à devoir lui-même démontrer sa valeur? Il y a déjà deux semaines de ça, nous avons vu un passage auquel j'aimerais que nous retournions, chez lequel j'aimerais que nous retournions, c'est dans l'Évangile d'après Matthieu, au chapitre 18, parce que c'est dans cet événement-là, entre autres, qu'on va reconnaître la force de Jésus, parce que lui-même va en donner la direction. Alors, on est dans le contexte qu'à ce moment, les disciples s'approchent de Jésus. On reviendra d'ailleurs au contexte tout à l'heure par un autre des évangélistes qui s'appelle Luc. Mais les disciples ici s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Remarquez qu'ils sont orientés sur le royaume des cieux. Donc, ça, c'est rassurant. On est dans Matthieu, chapitre 18, c'est ça? Verset 1, et on va continuer. Mais la question, ce n'est pas nécessairement concernant le royaume des cieux, qui est la difficulté, c'est quel est le plus grand? Jésus a comme perçu une difficulté, en effet, parce qu'il dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez pas, » Alors, c'est drôle, il parle à ses disciples. Si vous, là, mes disciples, qui me suivez, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez, il y a un processus ici, comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, wow! C'est comme dire, il y a une autre façon de voir les choses. On l'a vu un petit peu la semaine passée, il y a deux semaines, que nous sommes déjà enfants de Dieu. Maintenant, comment ça se manifeste, c'est ce qu'on va voir un petit peu, parce qu'on va adopter le même pouvoir de Jésus. Et quel est ce pouvoir-là? Bien, c'est le verset 4 qui nous en donne un très grand indice. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume de Dieu. La traduction de Louis II est intéressante parce qu'il dit « se rendra ». Prendra la décision de devenir humble. Ça veut dire qu'on ne l'est pas tout à fait. Hein? Ça veut dire que c'est une orientation que peut-être on n'a pas appris vraiment dans notre enfance. C'est-à-dire que les forces de notre éducation ne nous ont pas nécessairement orientés vers l'humilité. On va voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est, parce que c'est quand même un concept que c'est rarement dans la société qu'on le voit démontrer. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer une des plus grandes forces de Jésus, à savoir l'humilité. Remarquez que l'humilité, moi, ça m'interpelle parce que l'humilité de Jésus attirait autour de lui, oui, on l'a vu, les enfants, mais aussi les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Ça les attirait, mais par contre, ça repoussait les arrogants, les vaniteux, les hypocrites, les orgueilleux. L'humilité, nous dit Jésus, est la caractéristique à acquérir lorsqu'on redevient un petit enfant. Maintenant, on va essayer de voir comment un petit enfant manifeste cette humilité-là. On parle bien sûr d'un petit enfant. C'est drôle à dire, mais il faut remonter presque 2000 ans dans certains cas pour voir un peu c'était quoi la mentalité d'un petit enfant, parce que aujourd'hui, on voit très bien que l'adversaire n'est plus en train de s'attaquer aux parents. Il s'attaque directement aux enfants. Mais quand on réfléchit bien, un enfant, un petit enfant, dans un milieu où il baigne d'une certaine attention, d'un certain soin, cet enfant-là a les caractéristiques qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13. On va le voir tantôt, mais l'enfant en général, c'est drôle à dire, mais pensez-y bien, il est patient. Je dirais que parfois, il peut attendre mieux qu'un adulte. Un enfant, par exemple, lorsqu'il essaie de marcher, va faire beaucoup de tentatives avant de se décourager. Il est patient. Même s'il tombe, il va se relever. Un enfant, en général, est bon. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en général, un enfant, si bien sûr on le protège contre la jalousie, l'envie, et qu'on ne le fait pas sentir inférieur par rapport à un autre enfant dans la famille, va aider les plus petits. Bien sûr, s'il y a le sentiment qu'il est en train de perdre sa place, là, c'est une autre affaire. Mais ça, les parents, nous avons un bon rôle à jouer là-dedans. Le petit enfant n'envie pas ses parents, mais il les admire. Un petit enfant, il idéalise même ses parents. Il n'envie pas. Un petit enfant ne se vante pas, mais il aime montrer à ses parents ce qu'il fait. « Hey, papa, tu veux mon dessin? Hey, maman, regarde ce que j'ai fait. » Il va pointer sur le fun qu'il a eu de faire quelque chose, et il le fait souvent pour nous, hein? Dans ce même sens-là, l'enfant ne s'enfle pas d'orgueil. Il accepte, bien sûr, les compliments parce qu'il sent que ça lui donne la force de faire plus. Il ne fait rien d'inconvenant pour montrer sa supériorité. Il ne cherche pas son propre intérêt, hein? Mais s'il peut plaire à ses parents ou à ses amis, il est bien content. Il ne s'irrite pas, à moins de vivre l'injustice. Quand un enfant s'irrite, c'est parfois parce qu'il sent une certaine injustice. Je dis « il le sent », ça n'en est peut-être pas une, mais son interprétation. Il ne tient pas compte du mal. Par exemple, s'il se chicane avec son frère, sa sœur, 2 minutes après, ils sont en train de rejouer encore. Des fois, ça peut prendre 4 minutes. Il ne se réjouit pas de l'injustice, ni envers lui-même, ni envers ceux qui l'entourent. Il se réjouit quand c'est vrai, quand c'est honnête, quand c'est... T'sais. Avez-vous déjà demandé pardon à un enfant? Ça vaut la peine d'essayer ça. Ça vaut la peine de voir ce qui se passe chez un enfant quand on lui demande pardon. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le. Vous serez peut-être surpris. L'enfant croit tout. Tout ce que ses parents lui disent, lui enseignent. Et ça prend longtemps avant de douter, jusqu'à temps que la faille ou la promesse non accomplie s'est répétée, répétée. Là, l'enfant, à ce moment-là, a raison de dire « je dois mettre un bémol ». L'enfant espère tout, il veut un monde meilleur. Hein? L'enfant endure tout pourvu qu'il sache qu'il est aimé de ses parents. Alors, vous avez reconnu là les caractéristiques d'un Corinthiens 13, hein? On ne s'y reportera pas, mais versets 4 à 7. Et je pense que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut retourner à ces qualités-là. Hein? On veut être comme ça. Et tout ça, bien sûr, nous montre la voie de l'humilité. Mais une caractéristique importante, le petit enfant aime, à moins aussi d'avoir été trompé ou abusé ou qu'il y a eu trop de manipulation ou d'intensité négative, là, il aime se faire enseigner. Il aime ça apprendre. L'enfant aime apprendre. l'enfant curieux, l'enfant explore, à moins qu'il ait été vraiment brimé en général. Et voyons maintenant un petit peu comment Jésus-Christ a cette caractéristique-là. On va aller dans l'Évangile selon Marc. Vous savez, Jésus-Christ est un être humain aussi. Je dis aussi parce qu'on le sait qu'il est le Fils de Dieu, directement par le fait que Dieu, par le Saint-Esprit, par la puissance et la présence de Dieu chez Marie, a été, bien sûr, engendré du Père, on le sait. Mais aussi, en tant que fils de Marie, il était pleinement comme vous et moi, avec les mêmes passions, avec les mêmes désirs, avec les mêmes aussi, je dirais, réalités. Et alors, on le retrouve ici dans son ministère, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, et on va voir un petit épisode qui nous montre que Jésus apprenait constamment. Au chapitre 7, verset 24, là, il est fatigué. Il a besoin de se retirer, même de son ministère. C'est comme ce moment-là, il est saturé, il est fatigué. Alors, il sort d'Israël et dit, là, je vais arrêter de me faire poser tant de besoins, me faire dire tout ce que je dois faire, etc. J'ai besoin, je suis humain. Hein? Alors, on le retrouve ici, il nous dit au verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de plus vouloir de coups de téléphone. De plus vouloir être embêté, même pour une bonne cause. Parce que c'était pour une bonne cause. Désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Et il aurait aimé rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, voyez-vous déjà, hein, Satan était à l'œuvre depuis longtemps, et il s'attaque aux enfants, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme, nous dit le verset 26, était grecque, syrophénicienne d'origine, c'est-à-dire la partie de Tyr et Sidon, là, c'était quand même une nation païenne. Hein? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, hein, je suis au verset 27 maintenant, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens, aux petits chiens. » Oh là là! Ah là là là! Jésus est fatigué, hein? Mais il est sincère. Il connaît son plan. Le plan qu'il avait à cette époque-là, à cette période-là, était qu'il devait se consacrer aux descendants d'Israël. Et même, je dirais, aux descendants des descendants, à la branche surtout de Judas. Et bien sûr, on sait qu'éventuellement, il a envoyé ses disciples vers la maison d'Israël. Alors, dans un sens, il lui laisse savoir, il dit, écoutez, moi, là, ma chère madame, là, moi, présentement, je cible mes compatriotes, c'est le peuple de Dieu. Laisse le peuple de Dieu prendre les bénédictions de Dieu, parce que pour toi, c'est pas pour toi maintenant. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Wow! La madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en colère. Mais quelle humilité! Et Jésus, je me demande s'il ne voulait pas, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, parce que Jésus était comme vous et moi. À moins que le Père ne lui dise exactement quoi faire, des fois, il était comme vous et moi, il était en point d'interrogation. Jusqu'à temps qu'il ait la conviction de l'Esprit. Alors, la réponse qu'il a donnée, c'est celle-là. Mais regardez que quelqu'un l'a ramené sur la planète ici. Elle dit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens que je suis, hein? Moi, la petite chienne, hein? Excusez-moi, j'espère que ça vous... » Mais dans ce temps-là, ça veut dire, il y a les animaux purs, il y a les animaux impurs. Oui, les petits chiens sont des animaux domestiques. Oui, ils ont accès jusqu'à un certain point dans la maison, mais ils ne sont pas de la maison. Hein? C'est quand même des animaux. Elle a compris l'allusion qu'il y a Israël puis il y a les autres. Il y a le pur puis il y a l'impur. Mais elle a vraiment été plus profonde. Elle a dit, « Ouais, mais tu sais que les petits chiens, en dessous de la table, ont droit aux miettes qui tombent de la table des humains. » Je pense que Jésus-Christ s'est laissé enseigner ce jour-là. Je pense que Jésus-Christ a permis que la Syrophénicienne l'enseigne, parce qu'il a dit, alors lui dit, à cause de cette parole, comment tu as réagi, comment tu as compris l'ordre des choses, comment tu as gardé ton humilité, et tu as provoqué mon humilité positive, si tu veux, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille, j'ai ma réponse. Dieu vient de me donner la réponse que par ta parole, tu as exactement fait la volonté de Dieu. Aïe, je ne sais pas si vous comprenez là, l'enjeu et comment l'humilité a gagné Jésus et comment cette situation-là est pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient corrompre l'humilité des enfants? Qu'est-ce qui est venu corrompre notre humilité? C'est-à-dire cette simplicité à vouloir se faire enseigner, à croire tout, à espérer tout, à ne pas voir le mal, à ne pas avoir d'envie. Hé, quelle libération! Moi, j'aimerais ça être comme ça. En fait, j'y aspire beaucoup. Avoir cette simplicité de l'humilité, mais qui donne une force. Du moins, on le voit chez Jésus. Mais qu'est-ce qui a amené cette corruption-là? Bien, l'injustice des adultes. Promesses faites, non tenue, dureté, négligence, manipulation, détournement d'affection, mensonge. Écoutez, l'enfant a-t-il vraiment été celui qui a causé ça? Il l'a plutôt subi. Après ça, bien sûr, il a mal réagi peut-être. La peur de la violence. Un enfant qui est élevé dans la peur, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va soit se... Hein? Il va se montrer assez fort. Moi, tu me feras pas peur. Ça fait qu'il devient agressif à son tour. Ou il apprend à manœuvrer là-dedans. Hein? Puis, tu sais, à essayer d'amadouer. Puis quand c'est amadoué, à manœuvrer sur le côté, à se récompenser parce qu'il a réussi à jouer un tour aux autorités, qui est le parent, ou là, parce qu'il a réussi à s'en sortir. Sans se faire trop prendre, du moins sur le coup. Et tout ça fait qu'on est en combat pour qu'on ne perde pas notre valeur en tant qu'enfant. Et en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on continue cette lancée-là un petit peu. On a l'impression qu'on est toujours en danger de perdre notre valeur devant Dieu. Qu'on n'en fait jamais assez pour Dieu. Qu'on n'est jamais à la hauteur de Dieu. Bien, la réponse est impossible d'être à la hauteur de Dieu, à moins que lui nous prenne à sa hauteur. Un enfant, quand il est désemparé, je me souviens à un moment donné, je chicanais mon fils, il avait à peu près 4 ans, OK? Je chicanais, puis dans le sens, il avait vraiment mal fait, là, tu sais? Puis là, il était comme là, parce qu'à un moment donné, j'avais peut-être mis un petit peu trop d'intensité, là, tu sais? Je veux dire, je savais que je devais l'influencer, tu sais? Là, j'ai vu à un moment donné que c'est comme ça a fait un déclic dans son esprit en disant, « J'en ai assez, là! » Il a tendu les bras en disant, « Prends-moi donc. Sauve-moi de ça, là. » Bien, c'est un peu ça qu'il faut faire, frères et sœurs, avec notre Dieu. Des fois, on dit, « Écoute, Dieu, là, sauve-moi donc, là. Prends-moi dans tes bras. Fais-moi monter sur le rocher trop élevé pour moi. » Est-ce que des fois, vous ne trouvez pas que vous êtes dans le creux? Bien, vous n'êtes pas seulement en humilité, là. Là, vous êtes rendu en humiliation. Attention, hein? Seul Dieu a le droit d'humilier. Ne laissez pas les hommes vous humilier. Subir de l'humiliation n'est pas le plan de Dieu en se servant des hommes. Oui, il va laisser les circonstances. Oui, Par exemple, le peuple d'Israël est en captivité. Oui, il a été humilié, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était, peux-tu juste te comparer ou du moins être en présence avec moi, puis le fait qu'on tu vas essayer de me plaire, moi, je vais te plaire plus encore. OK? Mais ça fait partie du fait qu'on a de la difficulté avec l'humilité parce que ce n'est pas par l'humiliation qu'on apprend l'humilité. Parce que l'humilité est quelque chose de volontaire. Quand on se fait humilier, on n'est pas trop participant. On se fait juste écraser. OK? Regardons maintenant avec moi la tendance qu'on a des fois de compenser pour les fautes commises envers l'enfant en essayant de changer le mal de place, en essayant d'attirer l'attention sur nous aussi. Quand on perd sa valeur en tant qu'enfant, mettons qu'il y a une rivalité dans la famille où le père préfère un frère ou une sœur plus que l'autre. Ça arrive, hein? Écoute, c'est même arrivé, d'après moi, là, à nos ancêtres. Là. Joseph, il était bien fin. Mais je pense que ça n'a pas été tout à fait bien que tout le monde savait qu'il était le préféré. Ça n'a pas aidé, là. Ça n'a pas aidé Joseph. Puis ça a causé des problèmes au père, là. Puis aux frères. Maintenant, la réaction des frères est condamnable. Hein? Ils ont voulu l'éliminer. Le seul qui a sauvé la vie au début, c'est Ruben. Parce que peut-être lui, il avait reçu une bonne taloche de la part de son père, puis il a dit, on peut s'en remettre. Pourquoi Joseph allait si loin, on va. Et Judas, finalement, lui, il a trouvé une façon de faire de l'argent avec ça. Prenons l'exemple d'une réaction dans Luc 10, verset 38, que l'enfant a qui n'est pas de l'humilité, mais qui est une forme déguisée dans un sens de manque d'humilité. C'est prendre l'attitude de victime, la victimisation. C'est-à-dire que on voit les injustices, puis on essaye de montrer qu'on nous fait des injustices, puis on veut avoir justice, mais à notre façon. Regardons ensemble Luc 10, versets 38 à 42. C'est un exemple. Et là, moi, écoute, ma sœur pourrait être ici, hein, parce qu'elle sera la résurrection, c'est Marthe. Okay? D'ailleurs, j'avais une sœur qui s'appelait Marthe, en passant. Elle vit encore. En fait, j'ai quatre sœurs. Marie, Marthe. À cause des évangiles. Monique, Micheline. 4M. Okay? Alors, mais Marthe, dans la Bible, avait beaucoup de qualités, d'ailleurs, au niveau de la croyance en la résurrection. Marthe, il croyait fortement. Mais ici, on va voir qu'il y a une petite faiblesse chez Marthe. Au verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? » Attends une minute, là. Jésus a dit, mais dans un sens, regardez, tu m'invites à la maison, tu as une sœur, oui, mais elle veut écouter ce que j'ai à dire. Parce qu'au fond, si tu m'invites et tu sais que je suis un enseignant, mais attends-toi à ce que j'enseigne, hein? Non, mais c'est vrai, je ne viens pas seulement pour un repas. Mais tu m'invites, j'accepte. Mais là, tu m'as dit que tu es frustré parce que tout en m'invitant, tu te sens victime du fait que tu as tout le travail. Mais ce n'était pas ta responsabilité de vérifier ça avant si tu étais capable. Non, mais voyez-vous un peu comment des fois on peut être utiliser un petit peu la victimisation pour essayer de dire, « Hey, on m'a fait une injustice. » Réponse, ou peut-être, mais est-ce que tu es capable de faire la part des choses? Parce que Marie, elle a pris la bonne part. Elle, son but, c'était d'écouter. pour apprendre, pour être changé, pour pouvoir faire peut-être une meilleure aide ensuite. Okay? Alors, verset 41, le Seigneur répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes, tu t'agites. » Et je dirais des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on fait beaucoup de choses. C'est comme si on voulait attirer l'attention de Dieu. C'est comme si Dieu nous confierait quelque chose, puis après ça, on se plaint que personne ne nous aide. Non. Tant mieux si on reçoit de l'aide. Mais si on dit oui, c'est notre responsabilité. Si on a besoin d'aide, on demande de l'aide, oui. Mais on ne le fait pas en tant que victime, on le fait en tant que « est-ce que ça peut mieux aller? » L'enfant va réagir soit par cette façon-là, s'il est dans une situation d'infériorisation, d'humiliation, ils n'ont pas en train de développer le bien-être de l'humilité, la force de l'humilité. La force de l'humilité, c'est de voir, de toujours aimer se faire enseigner. On l'a vu, c'est de toujours être dans la façon d'aimer, d'espérer tout, croire tout, d'avoir cette innocence, on pourrait dire. Mais ça peut aller loin. L'enfant peut prendre à l'opposé l'attitude d'agression que j'ai parlé tantôt. On va voir un exemple assez dramatique, je pense, de cette manière agressive que la personne peut prendre au lieu de prendre la voie de l'humilité. Elle va développer des mauvais comportements. Elle va devenir arrogante, hautaine, moqueuse. On va voir l'exemple d'Abimélech dans le livre des Juges. Ça, c'est un être humain que Dieu a voulu mettre comme exemple à ne pas faire et à dire quel était son problème, Abimélech? Quel était son problème? Si vous regardez dans le contexte, Abimélech a voulu prendre de force le contrôle d'Israël. Il a, pour y arriver, parce qu'il y avait un problème dans sa famille, il n'était pas le meilleur. Hein? Alors, pour être sûr d'être le meilleur, la meilleure façon, c'est que tu élimines la compétition. Il a simplement éliminé tous ses frères, toutes ses sœurs, du moins tous ses frères. Il les a tués. Il n'est pas le seul à avoir fait ça, là. Il y a même la fameuse reine là, hein, qui avait éliminé toutes les autres. Là, je pense, c'est quoi? Comment est son nom? Altari ou Altari? Je l'ai donné la dernière fois, ça. La mémoire, on parlait d'Alzheimer au début. Là. Dans le livre des Juges, chapitre 9, cet homme-là est sur un mode de régner, mais de régner par le contrôle, la manipulation, par la force surtout, et par l'agressivité. Alors ici, on est en conflit, dans un conflit entre Abimélech et certains de ses anciens partisans qui, avec le temps, ont probablement vu que ça devenait fatigant de l'avoir comme boss, qui est comme patron. Alors, ils ont comme décidé de sortir de son giron et ça n'a pas plu à cet Abimélech. Alors, on avertit Abimélech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. C'était une des villes qui ne voulait plus suivre Abimélech et qui avait été attaquée. Finalement, la plupart des gens se sont réfugiés dans une tour. Alors, Abimélech, verset 48, dans Juges 9, monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui, parce qu'il était quand même leader. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Alors, c'est un homme qui avait appris quand même l'importance de donner l'exemple. C'est toutes des belles qualités, ça. On peut avoir les plus belles qualités au monde, mais ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec. Ensuite, il dit au peuple qui est avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche, suivirent Abimélech, ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Alors, le but, c'était d'arriver à brûler le monde. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Il ne dit pas enfants, peut-être qu'ils ont réussi à s'échapper avec quelques autres femmes, je ne sais pas, avant de se réfugier là, parce que peut-être les enfants n'étaient pas ce que cherchait à tuer Abimélech. Ensuite, Abimélec continue à punir les gens. Et il marcha contre Thébets, il assiégea Thébets et s'en empara. Il avait au milieu de la ville une forte tour. On dirait que c'est une habitude que les gens vont dans un endroit où on peut se réfugier, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Alors, c'est facile, là, la stratégie est facile, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Mais là, regardez au verset 53. Abimélec, d'abord, qui s'approche pour mettre le feu. Alors, une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. La guerre, c'est ça, hein? Des fois, surtout quand tu te défends, là. Quand tu es en danger de mort, des fois, tu fais les petits efforts nécessaires pour empêcher le tueur. Et remarquez, verset 54, « Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes, lui dit, « Tire ton épée, donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Sa réputation, son machisme, peut-être. Peut-être son honneur. Écoute, à cette époque-là, c'est ce que c'est. Hein? Le jeune homme le perça, il mourut. Alors, remarquez le verset 56, « Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'il avait fait, ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. » Ce que je veux dire, dans ce contexte-là, frères et sœurs, nous voyons des réactions contraires à l'humilité à l'extrême, la violence, l'arrogance, au point que, n'est-ce pas, on pense qu'il est tout à fait humiliant de se faire tuer par une femme. Écoute, en guerre, que tu te fasses tuer par une femme, par une bombe, par n'importe quoi, t'es là pour tuer ou te faire tuer. Attends-toi à n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais qu'on se reporte à l'Évangile selon Luc. Parce que c'est assez intéressant qu'après avoir donné cette parabole-là, nous allons retourner au texte d'introduction. Voyons quand même la parabole dans selon Luc, chapitre 18. C'est Jésus ici qui donne cette parabole-là, au verset 10 à 14. Et remarquez qu'on est dans un contexte maintenant d'église. Je fais exprès, hein? Je dis le mot « église ». Parce que « synagogue », ça veut dire tout simplement « lieu d'assemblée ». Et aujourd'hui, en grec, c'est « ecclesia », et c'est proche, c'est la même chose. Deux hommes montèrent au temple pour prier. On est dans un contexte de prière. Wow! C'est bon! L'un était pharisien et l'autre publicain. N'oubliez pas que dans ce temps-là, Jésus, les Juifs étaient le peuple de Dieu. Donc, c'était le peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, il y en avait qui étaient pas mal bons, puis il y en avait qui étaient moins bons. Il y en a qui étaient fervents, puis il y en a qui étaient moins fervents. Les fervents, c'était les pharisiens. C'était eux qui étaient considérés comme les vrais chrétiens de l'époque, si vous voulez. C'était ceux, autrement dit, qui étaient de l'Église de Dieu. Hein? C'était pas les autres chrétiens, là. Tu sais, les publicains, tu sais, ceux qui n'ont pas tout à fait la compréhension que nous, on a. Ça, c'est les publicains, ça. Mais là, Jésus-Christ est en train de faire une leçon. Bien sûr, il met ça gros un peu. C'est pour essayer de nous montrer des extrêmes. Un à éviter, l'autre à rechercher. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Là, les gens vont dire, oui, mais il était debout pour prier. Oui, mais on est au temple, là. On est dans un lieu public. Et si vous allez encore aujourd'hui à Jérusalem, au mur des Lamentations, la plupart des Juifs prient debout. Okay. Quand on est en privé, en général, on se met dans la position qu'on est, on sent le mieux avec Dieu. La position qu'on se sent le mieux avec Dieu. Et dans certains cas, ça fait du bien d'être à terre. J'ai des bons moments avec Dieu, puis des fois, là, être le plus bas possible, c'était ça qui était mon réconfort. Ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Donc, c'est une prière silencieuse quand même. Il ne faisait pas ça pour être entendu comme certains des pharisiens qui faisaient de longues prières. Hein. Lui, c'est en lui-même au moins. « Ô Dieu, je te rends grâce. » Oh, reconnaissance, l'importance de reconnaissance. « De ce que je ne suis pas comme le reste des autres. » Oh là, ça se garde vite. Ça se garde vite. « Ne vous comparez pas les uns aux autres, » dit Paul. « Estimez les autres comme étant supérieurs à vous. » Et pour un ancien pharisien comme Paul, ça vient un petit peu détruire son œuvre à ce collègue ici. « Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont, comme cet Abimélec, ravisseurs, injustes, adultères, ou même, écoute, je vais être quand même gentil, là, je le mets dans le groupe, mais je l'ajoute à la fin seulement comme ce publicain. Moi, là, Dieu, je jeûne deux fois la semaine. » Et je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, je dirais, en général, là, peut-être qu'on a de la misère avec le premier point, mais le deuxième, il me semble qu'on le fait en général. Le publicain, se tenant à distance, regardez ce qui est quand même étonnant, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il ne se sentait pas à l'aise avec Dieu. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. » Ça va pas bien dans ma vie. Je suis pas trop bon. En fait, je suis pécheur. Je me demande qu'est-ce que je fais ici, au fond, parce que j'aimerais pas ça, là. Au fond, je voudrais même pas que tu me regardes, là. Mais j'ai la foi, quand même, pour dire que peut-être le fait que je te prie, tout d'un coup, tu interviendras en ma faveur. Sois apaisé, parce que je n'ai pas de paix. Je vous le dis, verset 14, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Maintenant, frères et sœurs, la question c'est, vu qu'on connaît ce verset-là, c'est sûr qu'on ne fera pas ça, hein, comme ça. C'est sûr qu'on le sait, là. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas qu'inconsciemment on le fait. Jusqu'à un certain point. J'espère que vous et moi, nous sommes conscients que nous sommes en voie de devenir un petit enfant. OK? Un des indices de notre difficulté à chercher l'humilité, c'est qu'on a été trop humilié par les hommes. Et un des indices qui fait que on doit rechercher l'humilité, c'est que on cherche trop à plaire aux hommes. Pour compenser pour notre humiliation, on va aller chercher d'avoir l'approbation de certains hommes. Je dis certains. Ça peut être un groupe religieux, ça peut être un groupe philosophique, ça peut être une équipe sportive, ça peut être n'importe quoi. On a besoin d'approbation. Oui, mais des fois, on va la chercher au point, n'est-ce pas, de ne plus avoir l'humilité. Une autre façon qu'on pourrait voir qu'on a toujours besoin d'être en route vers l'humilité de l'enfant, c'est et celle-là, c'est la plus difficile, là. C'est qu'on a une petite tendance à avoir la fausse humilité. La fausse humilité, elle est un peu difficile, mais elle est, dans un sens, c'est des fois de se rendre humble, mais dans le but d'être élevé par les autres. Celle-là est difficile. Regardez avec moi la lettre de Paul aux Colossiens. Nous avons appris, certains d'entre nous, depuis nos enfances, que on n'a pas le droit d'être arrogant. On n'a pas le droit d'être orgueilleux. On n'a pas le droit d'être revendicateur. Moi, ce n'était pas permis chez nous. Ce n'était pas permis. On nous a même prescrit l'importance de l'humilité. Mais à ce moment-là, comment qu'on fait si on ne nous montre pas l'exemple? Comment qu'on fait si on essaie de nous imposer l'humilité? Bien, on va le faire, mais on va le faire en faisant semblant. On va jouer le jeu. On va prendre une stratégie qui va donner l'apparence d'être humble pour taire, faire taire l'exigence sur nous. Alors, écoutez, ça peut déborder dans le spirituel, ça. C'est que on peut faire, même devant Dieu, certaines choses dans le but d'attirer l'attention en faisant à croire qu'on est humble. Alors ça, c'est vraiment difficile à déceler. Moi, j'ai ça. En passant, je lève la main, là. Parce que c'est un peu the name of the game. C'est un peu la... Écoutez, dans l'Église, il faut-tu être humble ou il ne faut pas être humble? La réponse est oui. Alors, on va tout faire. Oui, c'est vrai, il faut se rendre humble. On va voir des fois comment le faire un petit peu plus dans quelques secondes. Mais je vais simplement la lire pour vous. On ne s'y reportera pas parce que le temps passe. Colossiens 2, 18 à 23, « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. » Il parle donc dans un contexte où il y a des gens qui font semblant d'être humbles, qui ont un comportement humble, mais qui, au fond, vont vous enlever votre récompense. Le but, c'est d'avoir la victoire à votre place. Oh! Il va répéter au verset 23, « Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. » Donc, ce sont ceux qui se montrent très spirituels. « De l'humilité et le mépris du corps. » Il parle beaucoup de l'ascétisme. J'en ai parlé à la fête, pour ceux qui étaient là, un petit peu de cette fausseté là, de l'ascétisme qui donne une apparence d'humilité. Maintenant, voici quelques points pratiques que nous enseignent les Saintes Écritures pour comment avoir un comportement un peu plus vers l'humilité. D'abord, Proverbe 27:2. Ça, c'est quelque chose, je pense, que nous devons dynamiquement là, adopter. Proverbe 27:2. Ça, c'est un indice pour moi. Si, par exemple, je fais quelque chose de bien, OK, puis que j'attends vraiment trop qu'on me le dise, c'est parce que j'ai besoin vraiment de vous, là. J'ai besoin de votre louange. C'est parce que j'ai... C'est une preuve que je suis en train de ne pas aller vers l'humilité. OK? Proverbe 27:2 dit ceci. « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Ça veut dire quoi? Ne faites pas les compliments sur vous-même. Vous dites, « Oui, mais qui va le faire? » La réponse, c'est un étranger. Ça ne vient pas toujours vite, mais ça va venir. Donnez un petit exemple. Mon épouse, au travail, il y a une collègue merveilleuse qui, éventuellement, il y aura un remplacement de poste. Le directeur s'en va, donc elle va appliquer au poste parmi tant d'autres. Alors, oui, il faut la lettre de présentation. Oui, il faut quand même dire ce qu'on accomplit. Oui, c'est normal. Là. Tu sais, on met les faits pour aider l'autre personne à dire, ouais, c'est vraiment ça qu'elle veut faire, puis c'est vraiment ça que moi, j'ai besoin. Faire la correspondance-là. Mais cette femme-là est vraiment humble. Elle ne veut pas faire de la broue. Elle ne veut pas se montrer, là. Mais il y a des prières qui montent parce qu'il y en a qui aimeraient que ce soit elle qui soit directrice. OK? Mais savez-vous ce que Dieu a fait? D'après moi, c'est Dieu. Il travaille dans le domaine de la santé et au-dessus d'elle, loin au-dessus d'elle, il y a ce qu'on appelle des commissaires aux plaintes. Ils travaillent au niveau des plaintes. Et ces commissaires-là, il y en a seulement trois sur la Rive-Sud. Une d'entre elles, quand elle a appris que cette femme-là appliquait, sans que même l'autre le sache, là. Elle ne savait pas. C'est une collègue qui a dit, « Hey, il y a une de nos collègues qui aimerait ça. » Puis elle dit, « Ah oui, je la connais bien, en effet. » Puis elle a décidé, écoute, c'est entre vous et moi, parce que ce n'est pas fait encore. Vos prières sont bienvenues. Elle a décidé d'écrire une lettre en sa faveur en disant, « Moi, je la verrais bien, là. » Qu'un autre fasse ta louange. Okay. Ici, j'ai une citation de Arthur Blessed dans le livre qui s'intitule « Le pouvoir de l'humilité » par M. Kendall, R. Kendall. Il dit « Quand tu peux accepter de façon égale les compliments et les critiques, tu commences à être libre. » Accepter les compliments aussi, c'est important. Pas les rechercher, mais les accepter. Accepter un compliment, c'est dire, « Wow, la personne a pris la peine de venir me le dire. » Je ne sais pas si vous comprenez. La personne a pris le temps et a fait l'effort de me dire l'effet que j'ai pu avoir sur la personne ou le service que je lui ai rendu, que ça l'apprécie. C'est bon pour elle qu'elle le fasse. Et j'apprécie de voir que c'est bon pour elle. Comprenez-vous? Ça vient de Dieu, cette façon-là de penser. On ne peut pas l'inventer nous-mêmes. Il faut vraiment voir que c'est bon pour la personne. Donc, on accepte le compliment parce que c'est bon que la personne fasse des compliments. La Bible dit, considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, vous avez devant les yeux une personne qui vient vous complimenter sincèrement. Vous avez devant les yeux une personne qui vous estime plus qu'elle s'estime elle-même. Dans ça, comprenez-vous? C'est ça qui nous aide à accepter le compliment. Matthieu 6, versets 1 à 6. On va y aller directement au verset 2. Matthieu 6, prenons le verset 2. « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. » Comment ça, hypocrites? Ils ne sont pas hypocrites, ils le font devant tout le monde. Ils ne sont pas cachés. Ce n'est pas hypocrite. Non, c'est l'intention en arrière qui est hypocrite. Et voici l'intention. Afin d'être glorifié par les hommes. Autrement dit, j'ai besoin... Oui, je suis humain, frère, c'est ça. J'ai besoin de sentir que Dieu m'aime. Et il va se servir des hommes et des femmes. Il va le faire, je vous le garantis. Mais vous ne savez pas par où il va passer. Et si vous allez au-devant et vous pensez que c'est par elle ou par lui que Dieu passe, puis ce n'est pas par lui ou par elle, c'est mieux de ne pas rechercher ça. Attendez que ça vienne de Dieu, afin d'être glorifié, non pas par Dieu, mais par les hommes. Nous, on recherche la gloire de Dieu. La gloire qu'on remet à Dieu. Mais pour remettre à Dieu de la gloire, en passant, frères et sœurs, il faut en avoir su. Avez-vous déjà pensé à ça? Oh, moi, je veux rien, ça. Oh, moi, je veux pas. Ben non, dites oui pour Dieu. Oui, j'accepte pour Dieu. J'ai quelque chose à lui remettre que vous m'avez donné. Dans ce sens-là, comprenez? C'est le juste milieu. L'humilité, c'est le juste milieu. Mais eux, ils le faisaient afin d'être glorifiés par les hommes. Et c'est normal. Écoutez, ça, c'est correct. Dans le monde. Mais il dit, garde, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est correct. Dans le sens que, voilà, c'est tout ce qu'ils vont avoir. Mais nous, on est des enfants de Dieu, frères et sœurs. On ne veut pas la récompense par les humains si elle ne vient pas de Dieu. Nous voulons la récompense de Dieu. Et ça demande de chercher à voir Dieu chez l'autre, mais comment? En le considérant au-dessus de nous. Et il va continuer Jésus-Christ en essayant d'expliquer. Remarquez maintenant un dernier verset, ou l'avant-dernier, psaume 138, 6. On recherche à devenir comme des petits-enfants. On l'est déjà, enfant de Dieu. Mais on a un programme, c'est « apprenez à redevenir ». Et c'est intéressant parce que le mot « disciple » veut dire « ceux qui apprennent », « ceux qui adhèrent au système d'éducation de Dieu ». Psaume 138, 6. Vous savez, c'est apaisant, réconfortant, fortifiant de rechercher l'humilité de Jésus-Christ. C'est vraiment apaisant. Psaume 138, 6. C'est bon de pouvoir dire... Tu sais, il y a une chanson qui dit « Le plus fort, c'est mon Père ». Bien, le plus fort, c'est notre Père. Et le psalmiste disait « L'Éternel, le grand Je suis, est élevé. » Et quand il est élevé, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Dieu voit les humbles. C'est-à-dire que c'est une façon d'être. Comme Jésus-Christ a pris un petit enfant, il nous prend. Il nous voit de près. Mais il regarde de loin. Parce que, écoute, ils n'ont pas besoin de lui, de toute façon. OK? Dieu se tient loin de ceux qui se pensent supérieurs aux autres. Et je dois faire constamment attention. Je désire que Dieu soit proche de moi. Vous savez, Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, car je suis doux et humble de cœur. » Écoutez, il est obligé de le dire. Que quelqu'un dise qu'il est humble, ça peut sembler, « Ouais, là, t'es moins humble si tu le dis. » Mais Jésus-Christ le dit pour nous. Okay? Il le dit pour nous. En disant, « Écoutez, vu que vous allez me suivre, ben moi, je le suis et je vais vous aider à l'être. » J'aimerais qu'on conclue avec le psaume 131. On revient un petit peu en arrière. On est dans le psaume 138, 6. Psaume 131. C'est vrai que c'est un verset qui, pour moi, est comme reposant, libérant. Il est bon d'avoir l'humilité de Jésus-Christ. Il est bon d'avoir le cœur d'un enfant. Je ne l'ai pas toujours, mais je le recherche. Vraiment. Je veux que Dieu soit proche de moi. Je ne veux pas qu'il me voie de loin. Je ne veux pas qu'il me regarde de loin. Je veux qu'il soit proche. Cantique de degré de David. Éternel, j'aimerais ça pouvoir le dire, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Plus loin, il continue, il dit, je suis comme l'enfant, sevré, repu sur le ventre de sa mère. Juste bien d'être là, juste au chaud avec mon Dieu, juste content. On a le droit à ça. On a besoin de ça. Toute sa vie d'homme, Jésus a été caractérisé par l'humilité. Il n'a pas recherché sa gloire, mais celle de son Père. Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort. Juste avant son arrestation, on le retrouve à genoux devant ses disciples à laver les pieds. Il est allé vers son exécution, comme vous savez, et est mort en tant que criminel. Ça, c'est pas rechercher sa gloire. Hein? Pour chacun de ses frères et sœurs et pour tous les humains, c'est cela le pouvoir de l'humilité. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Soyez enseignables. Devenez comme des petits-enfants. Car je suis, moi le grand je suis, doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos êtres.